Catherine Pilon, ANCT. Je me demande pourquoi vous n'avez pas recours aussi à la notion de subsidiarité, finalement, dans ce nouvel ordre de collaboration entre collectivités, entre les différents niveaux de collectivités, l'État, l'Europe. Est-ce que ce concept européen, finalement, ne pourrait pas s'adapter en infranational pour mieux aborder les questions de transition écologique?
C'est une juste question. Moi, j'ai renoncé au concept de subsidiarité. Vous m'entendez, ça va? Si, c'est bon. J'ai renoncé après avoir lu le bouquin de Madame Chantal Millon d'Elsol, qui était l'épouse de Charles Millon, le président du Conseil. Bon, on s'en fiche, mais enfin, une juriste éminente qui au moins racontait des choses bien informées sur cette notion. Et après avoir compris que la subsidiarité était une arme à double tranchant et fonctionnait dans le sens qui convenait à celui qui l'utilisait, ascendante ou descendante. Alors je le fais rapidement, mais ce que j'ai compris de la part de Madame Chantal et d'historien, c'est que cette notion est née dans la deuxième partie du Moyen-Âge, au XIIe et XIIIe siècle, lorsqu'il est très compliqué d'ajuster le pouvoir du pape dans l'Europe occidentale et le pouvoir de l'empereur, en particulier dans les terres du Saint-Empire romain germanique, où les deux autorités rivalisent. Le pape nomme des évêques qui sont en réalité les équivalents de présidents de conseils régionaux, etc. Ce sont les féodaux de l'époque. Certes, ils ont une mission spirituelle, mais ils ont surtout une mission séculaire de tenir des territoires, des cités, etc. Et puis, il y a une autre architecture politique qui est celle, disons, des dynasties locales qui ne s'ancrent pas, qui n'émanent pas du pouvoir spirituel et qui se sont fédérés depuis, vous savez, la fin du Xe siècle dans le Saint-Empire romain germanique qui dure quand même 1000 ans. Et toute la question est de savoir qui est l'autorité, si c'est Rome ou si c'est le prince. Et par conséquent, s'il faut reconnaître que ceci va remonter à Rome ou que ceci va rester dans la cité-État ou il y a assez peu de royaumes encore à l'époque, bref, la principauté, etc. Il y en a à un moment donné plus de 300 qui constituent le Saint-Empire romain germanique. Et c'est plutôt dans l'Église que cette notion de solidarité a été forgée, mais pour fonctionner vraiment dans les deux sens. Ça, c'est pas à Rome que ça doit se trancher, donc ça va rester au niveau de l'évêque. Donc l'évêque va s'arranger avec le prince local. Ah non, mais ça, c'est nous qui allons le dire. D'ailleurs, s'ils ne le font pas, on les excommunie. Et donc, je trouve qu'il y a une relative hypocrisie dans cette... c'est peut-être mon vieux fond athée qui revient. Dans cette notion à géométrie variable que nous croyons en France être la promesse d'une descente en échelle des responsabilités, alors que la pratique européenne... Et vraiment, dans cette culture-là, la réintroduction de l'ours dans les Pyrénées, ce n'est pas l'affaire des élus locaux. C'est une politique et une nécessité et, comment dire, un cadre aussi juridique, quelque chose qui est voulu par des engagements internationaux européens. Donc oui, on réintroduit l'ours dans les Pyrénées, je prends cet exemple parmi d'autres, mais parce qu'on considère que ça ne peut pas tenir à la volonté de la vallée de la vallée d'Aspe. Hein, c'est au-delà, les intérêts sont là, donc solidarité montante. Et puis à d'autres cas, on dit systématiquement qu'en fait, en descendant, il suffit de demander aux gens ce qu'ils en pensent pour que. Demander aux locaux ce qu'ils en pensent pour que, ça donne ce pataquès monstrueux, cet échec lamentable qu'a été Notre-Dame-des-Landes. Dans lequel, effectivement, on a de jouer de la solidarité montante, et des... c'est le troisième aéroport, ah ben non, en fait, il n'y en a peut-être pas besoin, etc. Hop, hop, hop. Donc, du coup, je trouve cette notion vide d'efficacité politique, sauf par la puissance de l'hypocrisie de celui qui la manifeste, qui l'exprime, qui la manipule, pardon. Je recommence pas la phrase, je vais me planter. C'est à la main de celui qui l'invoque. Voilà, c'est plus simple comme ça. La solidarité, ça rend service à celui qui l'invoque. Mais en réalité, quand tu regardes de près, bah, ça va dans un sens, ça va dans l'autre. Et moi, on peut débattre. D'ailleurs, on doit débattre. En tout cas, moi, j'ai répondu sincèrement pourquoi je m'en sers pas.
Que j'interdis pas à...
Bonjour, je viens du groupe Vinci. Je le précise parce que ma question va dans ce sens-là aussi. Je trouve que dans votre dans le descriptif de ce que vous faites, il manque des acteurs, c'est des entreprises. C'est un sujet sur lequel on travaille, sur lequel justement comment les mobiliser vers cette transition. En plus, quand on est en groupe comme celui dans lequel je travaille, il y a des ressorts géographiques qui dépassent, qui débordent largement les territoires que vous évoquez. Et avec cette capacité, alors si on croit à un scénario très orienté solution, à développer de l'innovation, à aussi emporter des solutions concrètes pour ces territoires. Et je trouve que vous ne les mentionnez pas dans la géographie que vous faites de votre alliance des territoires.
Non, ils sont pas absents. C'est moi qui ai fait un blanc. Mais ils sont pas du tout absents pour vous en convaincre. Pourtant, convaincre un tout petit récit sur ce colloque de Cerisy qui s'est donc appelé Aménagement du territoire, 2. Rénovation complète. La pensée aménagiste en France, 2. Rénovation complète. On est en train de le sortir. Il sortira en avril. J'ai voulu faire un colloque avec les entreprises. Je l'ai fait. J'y suis arrivé, mais c'était très compliqué. Les entreprises qui étaient là étaient bien sûr les anciens, les monopoles, les majors. EDF, La Poste, SNCF, mais aussi Enedis, mais aussi Orange. J'avais Suez, mais j'avais pas les autres, donc aucun des trois, Vinci, Bouygues et Fage, parce que le parti pris, il y en a encore un ou deux, j'ai oublié, le parti pris est des dettes sur les opérateurs de réseau. Donc on a voulu faire un colloque sur la pensée aménagiste à partir des opérateurs de réseau. Je pense que cette notion d'opérateur de réseau qui mériterait d'être un peu décortiquée, nous aurait permis d'avoir, y compris les entreprises comme la tienne, mais enfin, ce qui nous intéressait, nous, c'était de repasser par la case grandes entreprises publiques et privées, aménageuses de grands réseaux d'infrastructures prises dans le temps très très long, hein, des infrastructures qui ont plus d'un siècle d'histoire parfois, et dépositaires de missions de service public, en fait, de biens communs tout à fait fondamentales, qui sont l'accès à l'eau, la gestion de la mobilité, etc., etc. Et je dois vous dire que, donc, c'est pour dire ma conviction qu'au cœur de la question de l'aménagement, il y a des entreprises, bien entendu. J'ai pris le prisme des réseaux, mais on aurait pu en prendre un autre et travailler sur la construction, par exemple, par ces opérateurs-là. Et je dois vous dire que ça a été une bataille, elle sera jamais terminée, vis-à-vis de toute une série d'acteurs, de collègues chercheurs, etc., etc., que de faire admettre qu'il fallait faire ce débat, il fallait l'avoir, il faut continuer à l'avoir, et qu'il faut écouter, etc., etc. Une bataille de réprobation ou de réfutation de la légitimité. Pourquoi est-ce que tu demandes à la SNCF ou à EDF ce qu'elle a à dire de la pensée aménagiste de la France ? Moi, j'ai eu du souvenir, notamment des élus de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, FNCCR, au niveau national, des gens qui m'ont dit « Mais ces entreprises n'ont pas de pensée aménagiste. » D'ailleurs, on va vous dire, elles n'ont pas de pensée. Alors, mais pourquoi ? Mais parce que c'est extrêmement divisé. La EDF, vous ne vous rendez pas compte, ils se battent entre eux, il y a là-dedans ces trucs. Je dis « Ah oui, l'État, jamais, non. » Donc, on part de très très loin. C'est très difficile. Et nec plus ultra, ayant réussi à tenir ce colloque d'une semaine en faisant venir des gens des entreprises, il y a eu ce moment un peu fatigant d'entendre de leur part même, alors vous les connaissez parce qu'ils passent ici, Pierre Messulam de SNCF, Michel Derdevet de l'Enedis, etc., disant, vous savez, nous, on n'a pas de pensée aménagiste. Non, parce que nous, on a de pragmatisme, héritage, on écoute le politique, etc., etc. Donc j'ai eu l'impression d'une proposition de rendez-vous entre quelqu'un qui voulait pas y aller et quelqu'un qui voulait y aller, mais un peu masqué, quoi. Je pense qu'il faut continuer à travailler fondamentalement et que dans tout ce que j'ai raconté, capacitation, gouvernement des réseaux, etc., il y a évidemment le monde immense des entreprises, de réseaux, de services et de beaucoup d'autres, les énergéticiens, etc., etc. Et que, en réalité, c'est là où je me suis fait taper sur les doigts, s'il y a un renouvellement de la pensée, un changement de principe et des souverainisations, c'est parce qu'on sera appuyé sur eux. En gros, pour le dire autrement, mais je veux choquer personne, mais j'ai le sentiment, après 30 ans, que vouloir éternellement repasser par les élus, les collectivités et, disons, le monde public des territoires, on avancera beaucoup plus lentement que d'aller voir d'autres systèmes d'acteurs dans lesquels les entreprises jouent un rôle essentiel. Évidemment, je me suis fait qualifier de néolibéral. Voilà. Ce qui ne manque pas de sel quand tout mon parcours politique, moi, enfin, bon, ça me regarde. Arnaud.
C'est quoi le gouvernement des réseaux ? Parce que le gouvernement des territoires, on voit à peu près, mais c'est c'est quoi aujourd'hui les réseaux essentiels et sur lesquels on va se baser justement sur ces questions?
Le gouvernement d'un réseau, ça aurait été une instance qui nous aurait évité de se payer le grand désarroi national de la mutation de la SNCF. Ce qui s'est passé en 20 ans, des trucs que d'autres collègues raconteraient beaucoup mieux que moi, Pierre notamment, Michel Savy et d'autres, un basculement du contrat ferroviaire national, avec la montée en puissance des autorités régionales, une renégociation complète de la dette et de l'effort collectif, avec une dette qui se balade entre SNCF Réseau, ailleurs, etc., une ouverture au marché, enfin, des transformations abyssales. Mais quand même un spécialiste tout en haut, puisque Pascal Ravire, il raconte très bien tout ça aussi. Et on n'en a pas fait un vrai débat national. Il y a des élus spécialistes, des très très bons. Il y a des commissions parlementaires qui savent de quoi elles parlent, etc., etc. Des élus vigilants. Mais on n'en a pas fait un débat citoyen, un débat collectif. Il y a un tas de débats dans ce pays sur des sujets qui... serait de même nature. Quand on parle de la retraite, tout le monde y va, quoi. Et tout le monde est spécialiste de la question de savoir comment il faut construire les équilibres à long terme de ça. Et quand on parle de la SNCF, tout le monde monte dans le train simplement en disant « Le train, c'est fait pour aller partout et de préférence pas trop cher. » Et donc, un gouvernement des réseaux aurait été l'instance qui aurait permis à la démocratie de faire de ce sujet dont les acteurs sont des entreprises, y compris des entreprises privées, peu importe, un sujet collectif. Et ça veut dire donc des instances dans lesquelles les représentants combinent des citoyennetés territoriales, mais aussi d'autres qui restent à inventer et qui quand même sont pas complètement inimaginables, parce qu'il y a eu des comités de ligne, il y a eu des expressions citoyennes d'usagers disant « mais nous, on est les intérêts de ceux qui prennent tous les jours le train de 8h, je sais pas quoi, etc. Et on veut être entendu comme tel. » Donc il y avait, et nous savons ce que c'est qu'un gouvernement des réseaux d'une certaine façon, lorsque nous adhérons, je l'ai dit, à une mutuelle, à une fédération, quelle qu'elle soit, sportive, culturelle, militante, etc., et dans lesquelles nous nous représentons, non pas parce que nous sommes au même endroit, mais précisément parce que nous sommes portés par le même idéal, le même intérêt. Ça pourrait être le même idéal ou la même nécessité du transport ou de l'énergie décarbonée ou dénucléarisée, ou etc., etc. Et donc, je réponds, sans répondre à ta question, parce que je n'ai pas la forme magique, mais je suis convaincu que nous sommes un peu incapables d'inventer des formes de mandat qui ne soient pas adossées au territoire. Le mandat, pour nous, ça ne peut se définir que par une circonscription et le fait que nous appartenons donc à cette circonscription. Et puis une fois qu'on a dit ça, on reconnaît tous que ça ne tient pas la route, parce que ça s'appelle la démocratie du sommeil notamment, et que ça nous fait voter à des endroits où nous ne travaillons pas, etc., etc. Et en même temps, nous avons tous voté dans d'autres structures qui ne sont pas celles-là, que nous maltraitons d'ailleurs beaucoup. Là, j'ai eu, comme tout le monde, des invitations à aller voter pour la MAIF, etc., etc. Je ne le fais jamais, bien sûr, vous non plus, ou la MAIF ou autre chose, d'autres mutuelles. Et donc nous savons qu'être un mandant ou un mandataire dans ce type de situation, ça peut exister aussi. Donc moi, j'aimerais pouvoir exercer mon droit de vote à l'égard de la question énergétique en tant que telle. Et me répondre, oui, non, mais le politique rassemble toutes les questions et tu ne peux pas avoir des votes spécialisés, ne me convient plus, parce que je pense que on devrait pouvoir, et je ne parle pas de référendum, hein, je parle de représentants, de débats, de délibérations, etc. On devrait pouvoir s'exprimer sur des champs de cette nature-là dont nous identifions les opérateurs et auxquels nous pourrions confier donc des décisions collectives, des intentions collectives, des mandats. Donc le gouvernement de réseau, il faut qu'il puisse faire rentrer dans la politique des acteurs de ce type-là. Et c'est pour l'instant vécu comme très grossier. Donc on les cantonne dans des conseils de développement, des Césaire, où on les cache. Parce que le gouvernement des réseaux, je pourrais dire aussi, c'est le syndicat des transports de l'Île-de-France. Donc des structures, certes, composées uniquement d'élus, mais très étroitement adossées à des opérateurs. Parce que le STIF, il ne fonctionne que dans sa relation quotidienne à la SNCF. Et donc c'est là que ça gouverne, le réseau, pour de vrai. C'est un peu loin du citoyen quand même, donc c'est caché par des structures syndicales
qui dépolitisent le sujet et nous font croire que ça n'est qu'une affaire technique alors que c'est...
Une commission
on devrait en entendre parler beaucoup plus souvent, elle devrait être investie de missions beaucoup plus répétées. J'ai l'impression qu'elle a vécu à son lancement et dans son installation des moments à peu près identifiables, qu'on a commencé à entendre parler, etc. etc. Et aujourd'hui, qui sait quels sont les sujets sur lesquels la CNDP est au travail? Peut-être que c'est moi qui suis pas au courant, mais j'ai l'impression que le truc est un peu retombé. Mais c'est certainement de cette nature-là que ce genre de choses doit s'organiser. En tout cas, quand dans une région, ça, et en région de Rhône-Alpes, on est bien doté de ça, ça commence à se battre sur le fait qu'on va fermer telle ligne, revient à la SNCF, hein, excusez. Ou on pourrait parler de la Poste, c'est le même schéma. Je trouve que c'est des sujets qu'on devrait politiser dans le bon sens du terme, c'est-à-dire dans lequel on devrait créer un espace politique ad hoc, même temporaire. Pas la peine de faire la même chose que les institutions républicaines, on fait pas une constitution avec tout ça, mais là, voilà, là il y a un espace politique, alors on va organiser des élections pour qu'il y ait des représentants d'eux, des conférences de parties prenantes, on va se donner 2, 3, 4, 5 ans sur ce sujet, on va avancer, on va prendre les décisions ensemble, et on va faire de la ligne lambda ou du réseau des postes ou d'autres choses un vrai sujet politique, qui va mélanger des élus, des opérateurs, des citoyens, des habitants, etc. C'est une construction d'un espace politique. Voilà. Donc le gouvernement des réseaux, c'est pas une métaphore qui demande que se construise en mimétisme absolu avec les territoires quelque chose d'équivalent, mais c'est une invitation à ce que nous puissions gouverner, nous aussi, les réseaux, et ne pas les laisser à un gouvernement technique ou obscur.
Donc Arnaud Hildman, moi je travaille au ministère de l'Agriculture. Depuis hier, on prend beaucoup les exemples des villes où finalement il y a pléthore d'acteurs et le sujet est plutôt de comment on les fait fonctionner ensemble mieux que dans les schémas traditionnels. Alors, ma question, c'est un peu en négatif de ça, en lien aussi avec la présentation qu'on a eu hier sur une économie, pour dire vite, des villes qui se substitue progressivement à une économie industrielle qui elle-même se substitue à une économie rurale, agraire. Et c'est finalement ces territoires où il n'y a pas ces pléthores d'acteurs, où au contraire il y a plutôt un manque, voire effectivement une perte démographique, et où en même temps on est sur des économies où on n'identifie pas de point de transition, c'est-à-dire on ne sait pas, on leur dit il faut faire de la transition, mais dans le fond on ne sait pas leur dire exactement vers où. Et moi je suis toujours un petit peu gêné aux entournures, mais c'est peut-être parce que j'ai un biais un peu plus rural dans mon quotidien, sur le thème la démocratie locale et il faut que le local invente ses propres solutions. Ce qui est probablement très vrai dans une ville, mais c'est comment on adapte ce discours et la posture politique dans des territoires où, à l'inverse, il y a une forme de vide et où, paradoxalement, on nous renvoie, moi pour le coup, fonctionnaire d'État, à la mission un peu traditionnelle de soutien de l'État qui organise la société parce qu'elle-même ne peut pas s'organiser dans ces territoires-là. Donc comment on adapte ce sujet-là dans ces deux typologies de territoires très différents?
Devant, il y a une demande de parole aussi.
Ouais, peut-être ça va aller.
Dans mes pouilles.
Oui, Sandrine Marty, RSE d'Enedis. Juste le sentiment que j'ai eu en vous écoutant, c'est que, plus des remarques. La responsabilité des régions s'est nettement accrue en matière d'énergie. Je pense à la loi NOTRe et autres, j'allais dire. Mon premier point, c'est le sentiment que j'ai, mais sans doute n'est-il pas parfait, c'est que aujourd'hui le dialogue existe sur ces questions d'énergie entre, pour faire simple, les régions et les représentations de l'État en local ou en région. Donc la question, c'est peut-être que ce sont les citoyens aujourd'hui qui ne sont pas suffisamment associés. Deuxièmement, la question quand même, me semble-t-il aussi, c'est quand vous dites finalement les grandes entreprises d'infrastructures dont on fait partie avec ma collègue de RTE à côté, ont également effectivement des missions de service public et grâce à la péréquation, entre guillemets, ont aussi cette vocation à maintenir une forme d'équilibre, de cohésion. Et j'entends ce que vous dites et je partage. C'est un point de vue exclusivement personnel. J'ai le sentiment aussi, troisième remarque, qu'on se regarde tous avec quand même des stéréotypes et des préjugés qui sont aujourd'hui difficiles à dépasser. Et je me demande, j'allais dire modestement, si le sujet c'est pas aussi celui-ci. C'est-à-dire de changer le regard qu'on porte les uns sur les autres, chacun avec peut-être des... j'ai hésité à employer ce terme, hein, pardonnez-moi, chacun avec une forme d'idéologie. Et c'est là où, sans doute, on revient à ce que vous dites, un impératif écologique porte aussi un impératif politique. Voilà, je suis pas sûre que ce soit extrêmement clair, mais je pense que c'est surtout les citoyens qui sont exclus aujourd'hui du débat, plus que ceux qui portent traditionnellement, j'allais dire, les questions de politique énergétique, hein, ou comment on les fait entrer finalement dans le débat. Deuxièmement, je pense qu'on a aussi à apprendre les uns des autres et à modifier globalement, plutôt peut-être la vision un peu idéologique que l'on porte les uns sur les autres. Quelle est votre solution ?
Rien que ça.
Eh bien, circuler les uns chez les autres. Ouais. Le jour où il y aura des collègues qui viennent d'RTE ou d'Enedis et qui sont dans la direction machin chose de la métropole 2 ou de la région, puis qu'en fait, 5 ans après, ils repartent en privé, puis etc., là, ça va bien changer. Y compris côté de la fonction publique d'État. Ce qu'il y a comme nécessité de faire légèrement bouger les règles du recrutement de la fonction et des fonctions publiques en question. Mais la circulation professionnelle, si on pouvait l'organiser, s'il pouvait y avoir des décloisonnements des châteaux forts que sont le monde de la SNCF, c'est quand même un puissant château professionnel, quoi. C'est parce qu'on peut, dénoncer ce côté très enfermant de la fonction publique d'État, mais il y a d'autres entreprises qui font que quand vous rentrez à la SNCF, vous rentrez à la SNCF, c'est le cas de le dire. Voilà. Et puis on peut le dire sur plein d'autres boîtes comme ça. Et si ça circulait personnellement, individuellement, et si chacun d'entre nous, on pouvait avoir ce projet professionnel de dire, mais moi ça m'intéresse de passer dans la territoriale, mais maintenant, tiens, je vais aller faire un tour à la poste, et puis etc., etc. Bah, je pense que ça serait réglé en deux générations. Un petit mot sur les... Oui, je donne tout de suite. Oui, c'est ça. Parce que quand on se met à parler de systèmes territoriaux, il faut parler de ceux qui ne trouvent pas leur place dans le système territorial. Et qui, pour des raisons objectives ou pas, se sentent exclus du système territorial. La grande question de l'exclusion aujourd'hui, pour moi, c'est ça. C'est, pour les individus, les personnes, comme pour les collectivités... les mairies, etc., etc., le sentiment de ne pas être calculé par le système, de ne pas être repéré, identifié comme pouvant apporter quelque chose au système ou de ne pas savoir y entrer et y être à l'aise. Parce qu'un système, c'est forcément un peu plus compliqué qu'un territoire. Un territoire, c'est chez moi, je connais tout le monde dans la commune. Et donc, c'est mon petit système à moi. Mais si vous me parlez d'un système territorial, vous me parlez de lointain, vous me parlez d'étrangeté, vous me parlez d'altérité... Et donc, je n'ai pas forcément le mode d'emploi pour un tas de raisons culturelles, etc. Je n'ai pas envie de sortir, je suis scotché. Donc, l'exclusion, c'est ça. L'exclusion, c'est la fraction de sa société, personnelle et politique, qui, pour des raisons réelles ou fantasmées, ne prend pas place dans le système. Et alors, tu en trouves en ville. Hein, ils ne sont pas loin, c'est juste de l'autre côté de la bulle. Hein. T'as un gros morceau là qui fait pas du tout système, en fait. Quoi qu'on se raconte sur la ville neuve, ça ne fait pas du tout système. Mais enfin, tu peux aller sur le VO où j'ai habité... quand j'étais un gamin, ça a bien changé. Mais là, tu as des fractions comme ça de décrochage dans le système en pleine ville, et ce sont les plus nombreux démographiquement, et tu as une difficulté, je l'estime moi personnellement, plus politique que sociétale, de l'espace rural à prendre sa place dans le système. Plus politique, parce que je pense que c'est davantage la difficulté du système politique tel qu'il est construit à rentrer dans ces agencements, à fabriquer des intercommunalités de bonne taille, et pas à 12 000... cette bataille sur le fait qu'il faut passer à 20 000 habitants. Enfin, franchement, bien sûr qu'il faut passer à 20 000 habitants. Et sinon, vous savez, enfin, regardez ce que c'est que le budget d'une interco de 20 000, et puis vous repliez vos goals, quoi. C'est pas la peine de faire une interco à moins de 20 000. Il n'y a pas de soute. Moi, j'étais élu d'une interco de 15 000 habitants. On peut rien faire. Donc oui, il faut grandir. Oui, c'est compliqué de grandir, parce qu'il faut faire avec des gens qu'on considère que c'est vraiment des très lointains étrangers, parce qu'ils sont à 20 bornes, quoi. Dans le même département, mais alors si en plus c'est de l'autre côté du département. Donc c'est ça que j'estime être un retard politique de la mise en système, alors que je pense qu'une grande part de la, pas toute, hein, de la société rurale, elle est extrêmement mobile, extrêmement connectée, et en particulier toute cette frange de la ruralité qui est en fait métropolisée, parce que ce sont des retraités qui sont venus s'établir. Et quand je vais au fin fond de la Dordogne verte, je tombe sur des gens qui ont une carrière nationale et mondiale, et c'est eux les acteurs du territoire. Donc c'est des gens parfaitement conscients de la place de la Dordogne verte dans un environnement très élargi. Ou parce que c'est des gens plus ordinaires qui sont des boulots qui les emmènent à 50 km à la ronde, et ils savent bien qu'ils vivent un système. Donc les ruraux, sociétalement, je dirais qu'ils sont...
d'une certaine façon, à la pointe avancée de la mise en système des territoires, la société politique qui la représente, ce serait beaucoup plus sévère. Après, il y a des variantes et des populations rurales qui n'ont pas spontanément les compétences et les ressources à faire valoir pour prendre leur place. Mais on a parlé de ça hier. Que tu montes là-haut dans le Trièvre, tu as ces forestiers qu'on a vus dans le film, vous avez vu les accents des beaucoup frappés, hein, mon ex-beau-père, donc avec l'accent dauphinois terrible. Bon, mais c'est leurs enfants ou petits-enfants qui sont là aujourd'hui. Et quand tu vas causer filière bois avec eux, ça marche. Hein. Et ce qu'ils sont en train de faire avec le Trièvre, la métropole de Grenoble, c'est intéressant. La reconstitution de la filière du bois d'œuvre avec la Chartreuse, qui nous a été montrée hier avec la bâtisse, comment ils appellent ça, le Haber. Tout ça n'existait pas il y a 30-40 ans. Hein. Il n'y avait pas de fierté de la construction de la charpente en Chartreuse, puisqu'il y avait des scieries, mais il n'y avait plus beaucoup de savoir-faire. Donc, des compétences dans la ruralité, il y en a. Et de la capacité à les reconnecter à des systèmes qui les font valoir, je pense que c'est aussi assez enthousiasmant hein, sur ce sujet-là, comme sur le sujet de l'alimentation, bien sûr. Mais par contre, arriver à faire bouger, moi je me bats avec ça dans mon métier de consultant en permanence, c'est quand même un monde très rétréci quant à ces horizons d'agencement de territoire, quoi. Et j'ai tendance à être un peu sévère, quoi, hein, parce que ces communautés de communes qui veulent rester petites, bien séparées, bien distinctes, bah voilà, je vais être con, mais elles ont que ce qu'elles méritent au bout d'un moment, quoi. Parce que si on n'arrive pas effectivement à décloisonner, à faire des trucs ensemble, ok, d'accord, bah, du coup on n'arrive pas à sauver les services publics, on n'arrive pas à déployer des réseaux de mobilité, on n'arrive pas. Mais d'autres territoires, ils parviennent en faisant bouger les choses. Après, tout le monde va se moquer des Basques parce qu'ils ont fait une communauté d'agglos à 150. Bah ouais, mais enfin, ils ont eu le culot de le faire quand même. Et donc, la montagne basque, qui a eu à 2 heures de la côte, maintenant, elle est dans un système communautaire. Et ça lui donne, d'une façon totalement nouvelle, des moyens considérables et une vraie solidarité fiscale au moins. Donc, ils ont mis 30 ans à y arriver, mais ça y est, ils l'ont fait. Donc, voilà. Et après, non, le XXL, c'est monstrueux, c'est pas bien, c'est un monstre de la loi d'autre. Voilà. Il va rester petit, alors. Ah,
oui, ça pose quand même la question des formes politiques de ces coopérations. Et moi, ça m'interroge toujours. C'est-à-dire, effectivement, on voit des intercoups qui sont pas bien dans leurs habits XXL, et les formes plus larges de coopération, c'est quoi, en fait? Qu'est-ce qui marche?
On ne sait pas encore parce que ça vient. Comme tu le sais, on a eu un travail avec le CGET sur 4 intercos XXL. D'ailleurs, il y en a une qui n'a jamais démarré. Les 3 autres étaient le Cotentin, 170 communes à l'origine, 130 après les fusions de communes, et la 3e était le Grand Reims. Donc ça s'invente. En tout cas, moi, ce que je retiens de ce laboratoire qu'on a eu pendant 3 ans avec le CGET, c'est que ces 3 communautés ne nous ont pas du tout raconté le malheur d'avoir taillé trop grand et d'être allé dans une aventure ingérable. C'est pas facile, c'est compliqué, il faut trouver des systèmes intermédiaires parce qu'entre le très grand et la commune, il faut évidemment créer un niveau territorial intermédiaire. Ça râle beaucoup, les élus sont complètement paumés puisqu'ils disent bah, nous on sert plus à rien dans cette espèce de machin, donc il faut réinventer leur fonction. Donc oui, c'est plein de sujets, c'est sûr, mais enfin ça s'invente et moi je pense que dans 20 ans, on regardera ça en disant ouf, heureusement que le Cotentin a fait une communauté d'agglomération autour de Cherbourg qui fait toute la moitié nord du Cotentin. Parce que sinon, il risquait pas de décoller quoi que ce soit. Et Grand Reims, un cas tout à fait magnifique d'une alliance politique et d'un compromis de développement entre Reims, 200 000 habitants, c'est une grosse commune, et 130 villages autour, de 50 à 300 habitants. Parce qu'après, vous sortez dans la plaine champenoise, il n'y a plus rien. Et donc, c'est des grands écarts. Moi, j'appelle ça gouverner les grands écarts aussi. Parce que quand vous mettez ensemble des gens qui vivent dans la grande ville et puis des gens qui vivent dans le désert, et que vous leur dites on va faire communauté de destin, il faut vous gratter la tête pour savoir ce que vous leur promettez, en termes de service notamment. Mais bon, je ne dis pas que c'est facile, je dis que c'est en train de se fabriquer, et qu'au moins je pense qu'on est dans les vrais sujets quand on décide d'aller dans cette voie, plutôt que de se dire c'est ingouvernable, il ne faut surtout pas faire ça, il faut rester entre nous. Bon. Et je trouve qu'on devrait enchaîner notre programme.
Morgane Alfonsi. Moi, je voudrais revenir sur la question du divorce entre public et alternatif. Je trouve que c'est très intéressant, notamment parce que On entend souvent dire que ce dont on a besoin, c'est d'un récit positif, un récit autre, un nouveau récit pour faire avancer justement ces questions de transition, d'impératif écologique. Et je me demande dans quelle mesure est-ce que ce récit ne pourrait pas venir justement des alternatives. Sauf qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que le dialogue entre alternatif et public, comme vous le disiez, n'a pas lieu. Et donc comment est-ce qu'on pourrait faire renouer ce dialogue ? D'un point de vue peut-être anecdotique, mais ce que je vois autour de moi dans le milieu climat, c'est que même les personnes qui travaillent sur les questions climatiques dans le public ou dans des organisations classiques, on va dire, ont certaines d'entre elles, et c'est pas anecdotique, des activités personnelles ou un mode de vie personnel qui sous-tend les alternatives, et pourtant c'est complètement tabou d'en parler. Entre nous, on ne parle pas du fait que nous, on a chacun notre projet perso de vie alternatif. Voilà. Et donc, ce dialogue pourrait déjà se faire à ce niveau-là, ne se fait pas. Donc, comment est-ce qu'on fait pour renouer ce dialogue entre public et alternatif ?
Tu aurais pu prononcer le mot d'une quasi-schizophrénie, hein, parce que tout le monde connaît le directeur de ou le fonctionnaire qui est en charge de et qui en fait dans sa vie, là où il est dans son collectif militant, fait la même cible mais complètement différemment, complètement opposé quoi. Et alors voilà, alors tu dis mais tu dois être très malheureux au boulot alors parce que en fait ce que tu prônes et ce que tu fais c'est un peu l'inverse et puis quand t'es militant tu te dénonces toi-même donc tu dénonces. Oui, comment on fait ? J'en sais rien, mais j'en sais d'autant moins que ce que je constate, moi, c'est que nous sommes en train de payer, et assez cher, politiquement, ce divorce. C'est-à-dire cette perte de confiance totale dans l'idée que bah, pour créer des solutions collectives, c'est quand même pas mal de s'adosser au cadre républicain des collectivités, des politiques publiques, et des élus, etc., etc. Et avec tout un tas de gens qui disent ouais, « Ok, ciao, hein, nous on va faire la solution ABC entre nous, y compris ceux qui sont, comme tu viens de le dire, en charge de la mise en œuvre des politiques en question. » Donc je trouve ça très grave, je n'ai pas de solution, mais ce qu'il est certain, c'est que c'est là que le vrai débat politique se situe, beaucoup plus que dans beaucoup d'autres propositions de clivage. Ça, c'est un clivage proprement mortel. Parce qu'il ruine complètement les cadres que nous sommes censés faire vivre dans nos métiers. Et en même temps, je suis assez convaincu que le récit, puisque tu prononces le terme, effectivement, c'est plutôt dans ce deuxième paquet-là qui se fabrique aujourd'hui. Et ça, il y a des théories sur l'innovation à la marge et sur le caractère toujours latéral et transgressif de l'innovation. On a un peu l'impression qu'on a perdu la capacité à implémenter le système public des innovations alternatives.
Oui, moi je suis assez d'accord avec ça, mais en même temps, est-ce que ça ne traduit pas le fait qu'on est au début d'un mouvement, hein? Je pense qu'on est. J'ai le sentiment qu'il y a une espèce de mutation culturelle quand même, qui aujourd'hui reste assez marginale, mais qui est en train de se diffuser à grande vitesse. Enfin, quand on regarde les Américains appellent ça le minimalisme, enfin tout ça, dans le mode de vie, alors qui est dans toutes sortes de domaines, hein, y compris des gens très riches, etc. Bon, on voit, je lisais un article hier soir, il y a des centaines de bouquins sur comment être minimaliste, comment vivre frugalement, comment renoncer aux choses inutiles. Il y a des guides de mode de vie maintenant, avec des techniques. Et quand on voit, enfin, aujourd'hui, la façon dont les nouvelles générations abordent ce sujet-là, je pense que ce divorce, il va peut-être se combler un peu. Parce que je pense qu'il y a des choses qui aujourd'hui sont de l'ordre de l'alternatif et qui progressivement vont rentrer un peu plus dans un monde commun. Alors après, c'est vrai qu'il y a des. Il y a des groupes qui pensent qu'ils ont la solution à tout et qui sont effectivement en situation de retrait. Bon, ça, c'est, voilà.
La transition mode d'emploi.